Il est minuit à Paris et Varsovie, 2h du matin à Moscou. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale. Les dernières nouvelles du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Mathis Limano, bonsoir mon cher Mathis.
Et bonsoir mon cher Zéphirin, bonsoir et bienvenue à tous. À la une, la cérémonie des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Les hommages se sont succédés ce lundi devant l'entrée de ce camp de l'horreur où 1 million de juifs furent exterminés entre 1940 et 1945. Des prises de parole, de rescapés, notamment, ont rejoint notre correspondant en Pologne dès le début de ce journal. L'Union européenne prolonge ses sanctions contre la Russie pour 6 mois supplémentaires. Dans le même temps, elle lève une partie de celles qui visaient la Syrie. À suivre aussi, l'impasse avec les États-Unis. L'Union est surmontée, affirme Bogota. La Colombie était engagée dans un bras de fer avec Washington quant à l'expulsion des migrants colombiens du sol américain. Et puis en Corée du Sud, l'avenir s'assombrit pour le président destitué.
RFI.
La France promet de ne rien céder face à l'antisémitisme alors que le monde a commémoré ce lundi le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau qui avait révélé au monde l'horreur du génocide nazi. Les dirigeants et représentants de 54 pays ont fait le voyage en Pologne pour une cérémonie internationale sur le site d'Auschwitz en présence d'anciens détenus, des rescapés qui se sont exprimés devant les chefs d'État. Adrien Sarlat.
Les discours des 4 rescapés à s'être exprimés ce lundi après-midi avaient des airs de déclaration politique. C'est le journaliste et historien polonais Marian Tumski, âgé de 98 ans, qui s'est lancé le premier. Après avoir raconté sa captivité de 7 mois à Auschwitz lorsqu'il avait 24 ans, il a pointé la montée de l'antisémitisme dans le monde, en revendiquant le droit d'Israël à exister. Des supplications reprises par les autres rescapés, Yanina Ivanska, Tova Friedman ou encore Léon Weintraub, des interventions ponctuées par des musiques de 4 compositeurs qui ont eux aussi connu l'enfer d'Auschwitz. Les commémorations se sont déroulées devant l'entrée du camp de Birkenau, dans la plus grande tente jamais dressée pour une cérémonie internationale. À l'intérieur, près de 3000 participants, dont les représentants de 53 pays et une cinquantaine de rescapés des camps. La cérémonie s'est achevée par une minute de silence, suivie d'une prière juive récitée par le grand rabbin de Pologne. Puis les rescapés se sont avancés vers un wagon de marchandises semblable à ceux utilisés pour déporter les juifs des ghettos jusqu'au camp de la mort. Une séquence émouvante donc, où ils ont déposé des bougies et des pierres comme le veut la tradition juive, en l'honneur des victimes de la barbarie nazie. Adrien Sarlat, Oshvien Chim, RFI.
En France, la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe a été ravivée par le Premier ministre en cet anniversaire des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. François Bayrou, invité de la chaîne LCI ce soir, il a écarté l'idée des 7 heures de travail non rémunérées par an, ainsi que la suppression de 4000 postes d'enseignants, mesure voulue par l'ancien gouvernement. Aucun nouvel impôt ne pèsera sur les ménages en 2025, a aussi rassuré le Premier ministre français. Quant à l'immigration, elle ne peut être sujet à référendum, répondant à l'éventualité évoquée par le président Macron lors de ses vœux. Toujours sur ce thème, François Bayrou s'est dit favorable à une restriction du droit du sol à Mayotte. Enfin, sur les soins palliatifs et l'aide à mourir, il a confirmé vouloir 2 textes distincts. L'aide à mourir, un débat de conscience, selon le Premier ministre. Les sanctions européennes contre la Russie reconduites pour 6 mois supplémentaires, annonce de la chef de la diplomatie de l'Union, Kaya Kallas. Pourtant, rien n'était joué. Un veto de la Hongrie était redouté. Finalement, la pression américaine a eu raison du Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Vladimir Poutine, Romain Lemaresquier.
Viktor Orban est finalement rentré dans le rang. Lui qui menaçait de mettre son veto pour la prolongation des sanctions contre la Russie a finalement courbé les chines suite aux déclarations du président américain Donald Trump de peur de se fâcher avec ce dernier. Donald Trump a annoncé vouloir faire pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions pour qu'elle entame des pourparlers de paix. Viktor Orban, dont le pays continue de s'alimenter en gaz et en pétrole en Russie, s'opposait à la prolongation des sanctions de peur de voir cet approvisionnement coupé. Mais selon le ministre hongrois des Affaires étrangères, son pays aurait obtenu des garanties de la Commission européenne sur le fait que les discussions allaient se poursuivre avec l'Ukraine sur l'approvisionnement énergétique. Des discussions qui impliqueront la Hongrie et la Slovaquie, autres pays qui continuent de se fournir en Russie. La Commission européenne s'est engagée également à protéger les gazoducs et oléoducs menant aux États membres, selon le ministre hongrois des Affaires étrangères. Les sanctions qui viennent d'être prolongées comprennent tout un tas d'interdictions au niveau commercial, ainsi que le gel des actifs russes dans l'Union européenne, des actifs dont les profits sont utilisés pour financer un prêt de 50 milliards d'euros à l'Ukraine.
Romain Le Maresquier. L'Union européenne annonce en revanche assouplir les sanctions contre la Syrie, décision saluée par Damas. Les 27 se sont accordés sur une feuille de route pour une levée progressive des sanctions qui visaient le régime de Bachar el-Assad. Ce sont d'abord les secteurs syriens de l'énergie, des institutions financières et du transport qui devraient être soulagés par cette décision. Mais cette levée des sanctions sera annulée si des mauvaises décisions sont prises par le nouveau pouvoir syrien, prévient la chef de la diplomatie européenne. Les images sont impressionnantes. C'est une véritable marée humaine qui a regagné à travers les débris le nord de la bande de Gaza. 300 000 déplacés ont pu rejoindre leurs terres pour la seule journée de lundi, selon le gouvernement du Hamas, et d'autres continuent d'affluer. Depuis 15 mois et le début de la guerre, le territoire palestinien était coupé en deux par le corridor de Netzarim sous contrôle israélien. Le passage a été ouvert ce lundi à la faveur d'un compromis entre Israël et le Hamas. Le mouvement islamiste a répondu à une demande de longue date de Tel Aviv en publiant la liste complète de la situation des otages libérables lors de cette première phase de la trêve. Sur les 26 devant encore être libérés, 8 otages sont morts, déplore le gouvernement israélien. RFI en Colombie, il est 18h06. Le bras de fer entre le président Gustavo Petro et Donald Trump est désormais clos. Après la menace américaine d'imposer une série de sanctions contre la Colombie, Bogota a finalement accepté le rapatriement de ses ressortissants expulsés par les États-Unis. Le chef d'État colombien s'était insurgé contre leurs conditions de détention et d'expulsion. La position de Gustavo Petro a reçu un accueil mitigé dans son pays. Mathilde Alain, spécialiste de la Colombie, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle.
Ce qui pose en fait problème là dans la situation colombienne, c'est surtout une certaine arrogance de Trump, une certaine façon aussi de traiter les migrants. Par exemple, un des premiers tweets de Petro a été justement de s'interroger sur la situation un peu inhumaine ou une forme d'humiliation des migrants latino-américains et colombiens en particulier, qui sont renvoyés en ayant des menottes, par exemple. Et puis il y a aussi un peu un nouveau bras de fer un peu plus politique et idéologique entre Petro et Trump. Concernant la réception de ce bras de fer en Colombie, je pense que la plupart des médias et des analystes sont assez partagés. À la fois, ils critiquent fortement cette position de Petro qui montre une certaine impréparation. D'autres reconnaissent qu'il fallait tout de même s'affronter un petit peu face à Trump et puis montrer une forme de résistance. Mais la plupart des Colombiens sont en fait soulagés que cette crise soit de très courte durée, notamment parce que ça peut avoir un impact très fort dans le quotidien économique des Colombiens.
La spécialiste de la Colombie Mathilde Alain avec Nicolas Roca. Au moins 17 morts et 370 blessés à Goma selon des sources hospitalières. Des tirs nourris d'armes automatiques et d'artillerie lourde entendus jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu en RDC. Le M23 et ses alliés rwandais présents dans certains quartiers de Goma. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le mépris éhonté de la souveraineté de la RDC. Le dirigeant congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame qui ont confirmé leur participation à une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est ce mercredi. Et puis le feuilleton politico-judiciaire se poursuit en Corée du Sud. Le président destitué Yoon Suk-yeol devra faire face au juge après avoir été inculpé pour insurrection contre l'État. C'est un deuxième procès qui s'ouvre pour lui, en plus de celui en destitution par la Cour constitutionnelle. Des poursuites judiciaires qui semblent mal engagées pour le président, Célio Fioretti.
Un double procès et plusieurs centaines de pages d'un dossier historique. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol doit dans un premier temps se défendre face aux juges de la Cour constitutionnelle qui doivent statuer sur sa destitution. Un procès dont l'issue ne semble pas favorable pour le président, estime Yoon Bok-nam, avocat.
Il fait aujourd'hui peu de doute que la déclaration de la loi martiale par le président était contraire à plusieurs articles de la Constitution. Le pays n'était pas en état d'urgence nationale et le Parlement n'a pas été consulté avant cette décision. Cela pourrait très facilement permettre au juge de le destituer officiellement.
Désormais inculpé pour insurrection contre l'État, le président devra aussi comparaître au pénal dans les prochaines semaines. Pour Yoon Bok-nam, même si le président peut se défendre, l'issue lui paraît aussi défavorable.
Le président va essayer de montrer qu'il ne souhaitait pas de violence pour diminuer la gravité du crime. Mais le fait que d'autres personnes impliquées dans la loi martiale ont déjà été reconnues responsables laisse peu d'espoir pour le président Yoon d'échapper à une condamnation.
En Corée du Sud, le crime d'insurrection est passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à perpétuité. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Et à Séoul, il est 8h09. Bonne suite des programmes sur RFI. Tout de suite, autour de la question sur la Radio du Monde. Merci à vous d'avoir suivi le journal.